retrouve ce matin les conversations avec Daniel Habert. Et donc, Blaise, vous êtes revenu avec notre géopolitologue maison, entre autres, avec Isaac Franco, bien sûr, sur les répercussions du conflit entre Israël et le Hamas sur la géopolitique mondiale. On écoute Daniel Habert à votre micro.
Bonjour Daniel Habert.
Bonjour Blaise et bonjour chers auditeurs.
Comme tous les lundis matins, nous conversons avec vous, Daniel Habert. Alors, depuis le 7 octobre, le Hamas a attaqué Israël, une attaque terroriste. Pour commencer, en termes de géopolitique, mon Daniel Habert, y voyons-nous un peu plus clair?
Oui, il y a eu beaucoup d'initiatives diplomatiques depuis la semaine dernière. Vous savez, j'avais rappelé la semaine dernière que Israël, en termes géopolitiques, est face à trois questions au fond concentriques, la question des Palestiniens, la question régionale, les rapports d'Israël avec les grandes puissances de la région, les Arabes, les Perses et les Turcs, et puis au-delà, la relation d'Israël et la position vis-à-vis d'Israël des grandes puissances mondiales. Alors oui, on y voit plus clair, et en particulier sur la relation qui existe entre la question palestinienne et la question régionale. Contrairement à ce qu'on lit comme même assez souvent, il est faux de dire que et Israël et les pays arabes ont ignoré la question palestinienne. Ils ont simplement tenté de la contourner pour pouvoir lui apporter une solution. Et Israël et notamment les pays arabes sunnites sont d'accord pour dire que pour contourner la question palestinienne, il faut d'abord établir une atmosphère de paix dans la région. C'est le but des accords d'Abraham, c'est le but des relations apaisées entre l'Arabie saoudite et Israël, et qui permettrait dans ce cadre de résoudre plus facilement la question palestinienne. Alors évidemment, cela reste vrai en réalité. C'est mis de côté, pourquoi ? Parce que les opinions publiques, ce qu'on appelle la rue arabe de ces pays arabes sunnites, a été enflammée volontairement, évidemment, par le Hamas, au nom d'ailleurs de la religion, hein, puisque le thème c'est la défense de Al-Aqsa. Et donc on voit bien que c'est l'islam et l'islamisme, d'ailleurs bien difficile à distinguer, qui met le feu un petit peu aux poudres dans la rue. Et on peut comprendre que la plupart des dirigeants des pays arabes attendent que cette inflammation soit apaisée. Donc je pense que tout ça reprendra après la solution qu'on ne connaît pas encore. Et donc il faut attendre évidemment la suite des événements pour voir cette relation entre la question palestinienne et la question régionale.
Et ce conflit prend un tournant mondial, Daniel Habert, où en sont les grandes puissances?
Non, mais c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que on ne trouvera pas de solution au conflit sans un accord entre toutes les grandes puissances. Et donc, toutes les grandes puissances mondiales, les quatre puissances mondiales dont je parle à chaque fois, se sont toutes exprimées. Donc, on y voit plus clair. Sur le camp de ceux qui sont pour Israël, le camp qu'on appelle les camps de la démocratie, le camp des Occidentaux, les choses sont extrêmement claires. D'une part, les États-Unis ont apporté un soutien comme jamais à Israël, c'est-à-dire jamais on a vu les États-Unis intervenir aussi rapidement. D'ailleurs, du jour au lendemain, Biden a apporté un soutien total et surtout a envoyé son plus gros porte-avions entouré de tout un tas d'avions et un deuxième porte-avions, la Royal Navy. Pardon ?
Et 2000 Marines.
Et bien sûr, et des avions, et des missiles, etc. Donc, et donc tout ça. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que les États-Unis ont envoyé tout ça? Je crois que c'est clair. C'est pour dissuader l'Iran d'appuyer sur le bouton Hezbollah. Parce qu'au fond, les Américains savent que pour Israël, le vrai danger, c'est le Hezbollah. Qui est une armée bien plus puissante que le Hamas, et donc Israël a en tête la nécessité non seulement d'éradiquer le Hamas, mais demain le Hezbollah, qui représente une menace bien supérieure à celle du Hamas, et derrière le Hezbollah, supprimer la menace iranienne, qui, on ne l'a pas curieusement suffisamment évoqué, prépare une bombe. Et donc le rêve d'Israël, c'est mettre fin au danger du Hezbollah et attaquer attaquer les sites nucléaires de l'Iran. Donc évidemment, les Américains le savent, savent aussi que ils seront forcément derrière Israël si l'Iran bougeait. Donc évidemment, on voit très bien le jeu qui est en cours. Les États-Unis disent clairement aux Iraniens, ne bougez pas. Et pour l'instant, ils bougent pas. Et donc, ça, c'est évidemment la grande inconnue. Bougeront-ils ou pas? S'ils bougent, il est clair que les États-Unis s'engageront aux côtés d'Israël.
Ursula von der Leyen a été une des premières dirigeantes à se rendre sur place lors de l'attaque du Hamas. Qu'en est-il du côté européen?
Alors l'Europe s'est prononcée de trois façons. La visite d'Ursula au nom de la Commission, mais aussi au nom du fait qu'elle est allemande. Et donc les Allemands ont un rôle tout à fait particulier. Deuxièmement, les grands pays européens ont bougé. L'Allemagne, Scholz est allé, Macron a envoyé sa ministre des Affaires étrangères, il est probable qu'il ira lui-même. Du côté européen, Sunak est allé avec une détermination presque égale à celle de Biden, et il a envoyé aussi des bâtiments de guerre de la Royal Navy. Donc on a un soutien européen total qui a été en plus confirmé par une motion du Parlement européen, qui est en général pas très favorable à Israël. Et là, on a une motion unanime qui n'est pas totalement satisfaisante aux yeux d'Israël, mais qui est quand même, par rapport au passé, une avancée tout à fait considérable. On peut dire que l'Europe est derrière Israël, sauf qu'il n'y a pas les mêmes moyens militaires, puisque l'Europe n'est pas une puissance militaire. La seule puissance militaire, c'est celle de la Grande-Bretagne.
Et évidemment, nous avons le conflit en Ukraine à côté. On parle évidemment de la Russie. Qu'en est-il du côté des contestataires? On entend l'Iran, la Russie, la Chine principalement.
Alors, le leader du camp contestataire, c'est la Chine, qui a aligné tout le monde à Pékin pendant cette semaine écoulée, en réunissant au nom des nouvelles routes de la soie, mais c'était un prétexte. Tous les pays qui soutiennent au fond l'effort économique de la Chine pour s'étendre dans le monde, mais qui se transforme en un forum politique. La Russie s'est rangée derrière la Chine, et la Chine s'est prononcée. Et alors évidemment, pour Israël, c'est vraiment le côté très important. Qu'est-ce qu'a dit la Chine? La Chine ne s'est pas prononcée de façon très positive pour Israël, c'est vrai, mais à aucun moment, ni la Chine ni la Russie ne se sont établis comme des ennemis d'Israël. Ce qui motive les déclarations chinoises, c'est les Américains. Ils sont en contestation et en confrontation avec les Américains. Alors c'est vrai qu'Israël étant dans le camp américain subit les assauts de la Chine anti-américain, mais ils ne sont pas destinés à Israël, ils sont simplement pour les Chinois, marquer le fait qu'ils sont opposés aux initiatives américaines. Et puis un deuxième mobile qui agite les Chinois, c'est réunir autour d'elle la plupart de ce qu'on appelle les pays du Sud global. Mais alors ce Sud global, on réalise tout d'un coup qu'il est composé de beaucoup de pays à forte majorité musulmane. C'est l'Indonésie, plus grand pays musulman du monde, le Pakistan, plus de 200 millions, c'est le Bangladesh, c'est la Malaisie, et donc pour la Chine, utiliser ce levier de la haine musulmane pour Israël, c'est un moyen de s'attirer les bonnes grâces du Sud global. Simplement, le Sud global, il n'est pas unifié. Il y a le plus grand pays du Sud global, c'est l'Inde, qui est du côté israélien et américain. Le Brésil et l'Argentine, deux grandes puissances émergentes, sont plutôt dans l'hésitation et plutôt dans le camp occidental. Et c'est vrai aussi de tous les pays du Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Turquie et aux autres, qui sont quand même dans le camp occidental, qui ne sont pas dans le camp chinois. Donc, si vous voulez, rien n'est joué de ce côté-là. Et si vous me demandiez de conclure principalement, je dirais qu'il y a trois points à considérer. La première, c'est que rien n'est encore figé, puisque tout va dépendre évidemment de l'évolution sur le terrain. Mais surtout que pour Israël, son intérêt, c'est de bien comprendre que ni la Chine ni la Russie ne sont des ennemi d'Israël. Il se trouve qu'Israël est prisonnier du grand jeu politique mondial et donc les réactions, si vous voulez, émotionnelles que pourrait avoir Israël face aux positions chinoises qui ne lui sont pas favorables, pas plus que celles de la Russie, qui peuvent être considérées comme décevantes, il ne faut pas aller trop loin. Il faut attendre que tout cela se décante et ne pas transformer ni la Russie ni la Chine, qui ne le sont pas, en ennemis d'Israël. Donc il faut être surtout donc ici extrêmement prudent dans la réponse, et je vois qu'Israël est très prudent, d'autant que ce n'est pas sa priorité. La priorité d'Israël, c'est le terrain. Et puis surtout, et ça c'est la conclusion des conclusions, rien ne se fera en termes d'apaisement, ni pour la guerre en Ukraine, ni pour la guerre au Moyen-Orient, sans un accord entre les deux grandes puissances que sont la Chine et les États-Unis. Et on a vu, il y a presque un an, Xi Jinping et Biden mettre des limites à leur confrontation, dire nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons même pas la guerre froide. Or, il va se passer le mois prochain, en novembre, une nouvelle réunion d'un forum de l'Asie-Pacifique dans lequel et les États-Unis et la Chine seront présentes. Xi Jinping a indiqué qu'il irait peut-être, Biden a indiqué qu'il irait peut-être, ça sera peut-être le grand moment. Les choses ayant certainement évolué sur le terrain, où les deux grandes puissances pourront se parler et trouver un moyen de ce qu'on appelle un modus vivendi, non peut-être pas la solution finale, si j'ose dire, des conflits, mais peut-être une avancée sur les deux conflits que d'ailleurs tout le monde est en train de mélanger, la guerre en Ukraine et la guerre au Moyen-Orient. Il ne faudrait pas qu'il y ait un troisième conflit en Asie autour de Taïwan. On n'en parle pas du tout, au contraire, c'est peut-être que de là viendra l'apaisement. C'est en tout cas la note optimiste qu'on peut avoir aujourd'hui.
Daniel Haber, merci beaucoup pour ces conversations et on se retrouve lundi prochain.
Et on y verra beaucoup plus clair encore.